Genèveactive.ch.
Pierre Carl, bonjour.
Bonsoir.
Dans Fin de concession, vous interviewez un responsable de TF1 qui est, je crois, Étienne Moujotte, et vous lui rappelez que la concession accordée à TF1 n'est pas éternelle, qu'elle était faite pour 10 ans, et ce personnage est stupéfait qu'on puisse remettre ainsi son pouvoir en question.
Stupéfait, je ne suis pas sûr que ce soit stupéfait, mais en tout cas il est étonné qu'on vienne lui poser une question qui apparaît pour lui comme une vieille lune. Il a l'impression que c'est réglé, que le groupe Bouygues, le groupe industriel Bouygues, est détenteur à vie maintenant de TF1, alors que ce n'est pas le cas. Normalement, dans la loi française, un groupe industriel n'achète pas une chaîne de télévision. Il est détenteur d'une concession pour une durée déterminée. Mais on a l'impression, si on lit les médias, si on regarde, si on interpelle les responsables politiques, que cette première chaîne française a été attribuée à vie au groupe Bouygues, alors que ce n'est pas le cas. Et peu de gens, peu d'hommes politiques remettent en cause cette concession et les conditions d'attribution qui sont scandaleuses, comme on le voit, je crois, dans le film.
Dans le film, on voit justement l'entraînement par Bernard Tapie de l'équipe Bouygues pour gagner ce contrat, ou cette attribution plutôt. Et on voit bien sûr les promesses ensuite qui sont faites de mieux-disant culturel. On a l'impression que ce sont des promesses pour un groupe industriel qui sont les mêmes que celles d'un politicien en campagne et qu'ensuite on ne puisse pas lui demander des comptes. Comment se fait-il que parmi les personnes que vous avez, on voit Mélenchon par exemple dans votre film, comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de remous ?
Alors d'abord, Tapie, Bernard Tapie en 87, au moment de l'attribution de la concession de TF1 en groupe Bouygues, faisait partie du staff, effectivement, il était très proche de Francis Bouygues, le parrain en quelque sorte dans l'histoire, hein, on le voit très dominateur dans cette séquence. Mais c'était déjà un homme politique avant l'heure, puisqu'après il a fait de la politique, il est devenu député, il est devenu ministre, Bernard Tapie, et il est devenu homme politique au sens, dans tous les sens du terme, y compris le mauvais sens du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui raconte n'importe quoi pour gagner une élection, et là en l'occurrence pour que le groupe Bouygues se voit attribuer cette concession. Est-ce que les hommes politiques font pas leur boulot, vous dites, par rapport à cette histoire ? Oui, parce que je crois qu'ils ont intégré eux aussi que cette concession avait été accordée à vie. C'est vrai que quand on interroge les gens aujourd'hui, ils tombent presque des nues en disant « Mais comment ? Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que c'était pas une concession attribuée à vie. » Je crois que là on voit, c'est la même chose dans le domaine des autoroutes. Hein. Par exemple, les autoroutes ne sont pas attribuées à vie à des groupes industriels ou privés. Normalement, c'est des concessions qui sont limitées dans le temps et qui sont renégociées. C'est un bien public, et c'est un bien public que le privé ne peut acheter que de manière précaire. Voilà, c'est le principe d'une concession. Mais on est dans une période où les privatisations ont fait de tels ravages, sont tellement rentrées dans les esprits, en tout cas, qu'on a du mal à imaginer qu'il y a encore des lieux publics qui ne soient pas accordés à vie à des... Voilà. Et ça, cette idée-là a gagné peut-être toute la chaîne politique, enfin la plupart des hommes politiques.
Le succès de vos films en salle montre qu'il y a une attente du public, qu'il y a peut-être aussi une mutation de l'opinion. Pourtant, on le voit, il y a un besoin aussi de transparence. On le voit par exemple aussi avec Wikileaks. Les responsables politiques, les responsables économiques dénoncent ce qui permet cette transparence, que ce soit dans le fin de concession ou dans d'autres moyens.
Alors succès tout relatif quand même, hein. Mes films sont vus par quelques dizaines de milliers de personnes, ce qui est très loin, bien loin des audiences de télévision, qui eux ont un pouvoir qui est très supérieur au mien d'informer sur cette société ou de raconter n'importe quoi sur cette société. Mais c'est vrai qu'ils existent, ils circulent essentiellement grâce au réseau de salles à réessai qui existe en France, et puis après par internet ou en DVD, voilà. Est-ce que cette enfin... Pour l'instant, moi, je peux faire mon travail parce que je menace pas le pouvoir. Je pense que Wikileaks, avec la diffusion massive via Internet de ces informations, est peut-être plus menaçant. Et c'est pour ça que Wikileaks fait l'objet d'attaques très violentes en ce moment pour verrouiller, faire taire ce site. Mais moi, j'ai la chance, comme je suis un petit, comme mes films sont peu diffusés, comme ils ne passent pas à la télévision, d'être très peu embêté, on va dire, de ne pas faire l'objet de persécutions, de menaces. Voilà, vous avez vu dans ce film, il y a plein de choses qui sont illégales. Et non, les gens ne m'attaquent pas. Ils n'attaquent pas. Maintenant, si ces films passaient à la télévision, s'ils avaient une plus large audience, s'ils passaient dans les multiplexes, dans les salles plus commerciales, peut-être que là, ils y réfléchiraient à deux fois. Mais pour l'instant, on me laisse relativement tranquille. En gros, on va dire que la nouvelle manière de censurer, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est « cause toujours ». c'est cause toujours. C'est plus ferme ta gueule, hein, ça c'était les dictatures. Dans nos démocraties, c'est plutôt cause toujours. Voilà, hein, cause toujours. Si t'es petit, cause toujours. Si tu deviens gros, c'est plus embêtant et là on t'embête, mais si t'es petit, cause toujours.
Dans Fin de concession, je crois que c'est Patrick Lelay qui parle de TF1 et qui parle de l'entreprise et qui explique que c'est une entreprise qui, dont le but final est de gagner de l'argent. Ce qui est pour une entreprise commerciale tout à fait normal, mais est-ce qu'une entreprise de presse peut avoir simplement le fait de gagner de l'argent comme objectif ?
Je crois, il va plus loin. Patrick Lelay, l'ancien numéro 1 de TF1, dit que l'objectif de TF1, c'est de donner du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Hein. C'est plutôt ça, je cite de mémoire la phrase de Lelay. Donc c'est de proposer à Coca-Cola, donc à une grande multinationale, du temps de cerveau disponible de ses téléspectateurs. C'est-à-dire c'est de les rendre passifs, de les abrutir, de les mettre dans un état de non-vigilance pour pouvoir gober n'importe quoi. C'est en gros ça ce qu'il dit, quoi. Et là, effectivement, on est dans quelque chose de complètement scandaleux. Enfin, ça devrait être... Lui, il est honnête en disant cela. On ne peut pas lui reprocher son honnêteté. C'est-à-dire qu'il dit ce que beaucoup de responsables de médias ou de grands médias pensent tout haut. Leur boulot, c'est de gagner de l'argent. Et comment ils gagnent de l'argent? En vendant du temps de cerveau disponible de leur public à des multinationales. C'est la vérité. Après, quand on sait cela, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le pouvoir politique ne bouge pas, reste passif? C'est là qu'il y a un problème, peut-être.
C'est-à-dire que le pouvoir politique peut peut-être aussi profiter du temps de cerveau disponible pour se propulser.
Ah mais bien sûr, c'est comme ça que TF1 a réussi à durer et à faire ce qu'a fait TF1. C'est parce qu'à un moment donné, les hommes politiques avaient besoin de TF1, puisque c'était la chaîne qui avait accès à la moitié des téléspectateurs français. Donc elle détenait un pouvoir énorme. Et pour des hommes politiques, se couper de TF1, ça aurait été prendre le risque de ne pas être réélu. Donc TF1 a connu, aujourd'hui c'est un peu moins parce que TF1 a un peu, comment dire, a moins de parts de marché, est moins puissant, mais en même temps que TF1 a tout contaminé. C'est-à-dire TF1 c'est plus simplement la chaîne TF1, c'est le service public aussi qui ressemble de très près à TF1, qui est très proche de TF1, c'est le fonctionnement général de la télévision française qui est très proche de celui de TF1 qui a donné le ton finalement.
On voit plusieurs émissions qui sont soi-disant impertinentes, une impertinence assez contrôlée.
Ça c'est classique, il y a toujours des gens qui font croire qu'ils sont pas normaux à la télévision, qui sont à la fois dans le système télévisuel, je pense notamment à une chaîne comme Canal+, en France, qui a fait son beurre, son argent, en essayant de se distinguer des autres, en essayant de faire croire qu'elle n'était pas comme les autres, qu'elle n'était pas, je crois que c'était le titre d'une de ses campagnes publicitaires, elle n'était pas la télé comme les autres, la télé qui n'est pas comme les autres. En réalité, tout ça c'est du marketing, tout ça c'est de la publicité, tout ça c'est de la communication. Ce sont des chaînes qui sont, cette chaîne-là en l'occurrence, c'est très bien où s'arrêter, c'est très bien où, jusqu'où on peut aller par rapport au pouvoir politique ou économique, c'est très bien qu'il y a des règles tacites à respecter si on veut rester une grosse entreprise commerciale sans avoir de problème avec le pouvoir politique ou ses confrères économiques. Donc c'est de la fausse impertinence, c'est de l'impertinence, c'est de l'impertinence qui est complètement calculée, qui est complètement... elle sait très bien quelle limite se fixer. Or, les vrais impertinents ne se fixent pas de limite, ne calculent pas, sont des kamikazes. C'est surtout pas le cas de Canal+.
Comment arrivez-vous à obtenir ces interviews, à y filmer, alors que depuis Pas vu, pas pris, vous êtes connu dans le milieu ?
En fin de concession, il m'est arrivé d'utiliser des ruses, de me déguiser, de me travestir, de créer un personnage de journaliste, caméraman uruguayen. Mais en fait, on s'aperçoit que ces gens-là, ces puissants, sont assez crédules. Hein. C'est très facile de les piéger. Là, par exemple, Étienne Moujotte, l'ancien numéro de TF1, qui ne voulait pas nous recevoir, bien sûr, quand je l'appelais avec mon vrai nom. Il a suffi qu'on lui fasse croire qu'une équipe de télévision sud-américaine, uruguayenne en l'occurrence, veuille l'interviewer. Il n'a pas trouvé ça anormal pour lui. On lui a expliqué qu'en Uruguay, on aimait beaucoup le travail qu'il avait fait, que c'était quelqu'un de remarquable et tout. Et pas une seconde, il n'a imaginé qu'il était inconnu en Uruguay, en Amérique latine. Ce sont des gens qui ont un ego tellement surdimensionné, qui ont un ego tellement enflé, qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'ils ne sont pas des vedettes à l'étranger ou qu'ils ne sont pas connus à l'étranger. Donc... ils ont des points, des faiblesses comme ça, des failles qui sont très faciles à exploiter si on veut aller les voir par le biais de ces ruses qui sont relativement simples, même minables, à la portée de tout le monde en tout cas. Ils sont relativement faciles à approcher, oui, ces gens-là.
Vous terminez Fin de concession sur la place de la Concorde, là où se réunit ce que l'on appelle le pouvoir. qui comprend beaucoup de journalistes. La médiatisation de ce dîner, que l'on a pu voir dans de nombreuses revues, n'est-elle pas une certaine mise en scène? On pourrait dire qu'il y a presque peut-être une certaine perte de pouvoir, que le pouvoir s'exerce ailleurs.
Le dîner du siècle qui se tient tous les 4e mercredi du mois à Paris, place de la Concorde, c'est-à-dire en vis-à-vis de l'Assemblée nationale, c'est pas inintéressant d'un point de vue symbolique, hein, que ces gens-là, qui sont les élites françaises, hein, il n'y a pas que des Larbins, il n'y a pas que des David Pujadas qui sont des sous-fifres, on va dire, mais il y a aussi des patrons de grandes entreprises, des hauts fonctionnaires, des hommes politiques, des responsables de l'information d'un haut niveau. Donc il y a des gens, les puissants sont présents, hein, c'est pas un club de second couteau. Hein, alors il n'y a pas la très haute bourgeoisie, celle qui normalement n'a pas besoin d'apparaître ou qui se cache ou qui n'a même pas besoin de se réunir, qui dirige, on va dire, de génération en génération, naturellement, entre guillemets. Hein, c'est les Liane Bettencourt et compagnie. Mais de temps en temps, vous avez un majordome qui met un dictaphone sur une table de thé ou sur un plateau de thé et qui enregistre des choses qui sortent de ces univers. Mais c'est vrai que les vrais puissants, les vrais riches, vivent cachés, hein, n'apparaissent pas. D'ailleurs, pour eux, Nicolas Sarkozy n'est pas un des leurs. Pour eux, c'est un exécutant. Pour eux, c'est pas quelqu'un qui fait partie de leur univers. De la même manière que Bernard Tapie ne fait pas partie de leur univers. Pour eux, c'est un rigolo. D'ailleurs, c'est intéressant, les vrais puissants ne vont jamais en prison. Tapie est allé en prison, parce qu'il ne fait pas partie de cette catégorie. Il fait partie des parvenus, lui. Il fait partie de la catégorie des parvenus. Hein, bon. Alors, au dîner du siècle, vous avez aussi quelques parvenus. Vous n'avez pas que des puissants, on va dire, de génération en génération. Mais ça reste un lieu de pouvoir, de concentration de pouvoir, ça c'est certain, et qui nargue d'une certaine manière le pouvoir des représentants du peuple, puisque ce dîner a lieu en face de l'Assemblée nationale, de l'autre côté de la Seine. Et,
vous pensez que ce n'est pas par hasard ?
C'est pas par hasard. Je pense que, inconsciemment ou pas, ils ont décidé d'être place de la Concorde, ce qui est quand même pas rien à Paris. C'est un vrai lieu emblématique du pouvoir. Et non, je crois que il y a de leur part une certaine manière une volonté de dire on est là, vous pouvez pas, on ne se cache pas, et aujourd'hui ils sont un peu obligés de se cacher parce que depuis qu'on a mené plusieurs actions là, ils ont été obligés de mettre des CRS, des policiers. Il y avait la dernière fois plus d'une centaine de policiers pour protéger leur entrée. C'est déjà ça de gagner. Peut-être qu'ils vont maintenant avoir un peu honte, être obligés de se cacher, de devoir Mais je pense que ça reste quand même un lieu de pouvoir, même si le pouvoir aujourd'hui est devenu de plus en plus diffus et difficile. L'incarnation du pouvoir est de plus en plus compliquée, enfin en tout cas à détecter.
Pierre-Carl, pas vu, pas pris, c'était il y a 15 ans. Maintenant, après ce long parcours, cette connaissance que vous avez de ces milieux, quelle est votre ambition ou votre prochain objectif ?
Alors là, moi j'ai plusieurs projets en cours de réalisation. Plus ou moins autoproduit ou produit. Je vais essayer de terminer un film qu'on a démarré il y a 10 ans avec un journaliste qui s'appelle Georges Minangois, qui est un film sur la lutte armée en France dans les années 70-80 à travers le parcours de certains membres du groupe Action Directe, qui est un sujet tabou. Ce sont des choses dont on ne parle pas, ou alors on n'en parle que de manière... la seule version qui existe, c'est la version policière ou judiciaire, ou le point de vue du pouvoir, donc des vainqueurs, on va dire, mais pas le point de vue des vaincus. Ceux qui ont perdu, c'est-à-dire ceux d'Action Directe. Et donc on est en train de préparer un film autour de ces gens qui ont, dans les années 80-70, sont attaqués de manière violente au capitalisme et ont échoué à le déstabiliser en France. Mais c'est toujours intéressant de savoir que ça existait alors que ça n'apparaît pas aujourd'hui ou presque pas dans les manuels d'histoire. Donc c'est raconter une page non officielle de l'histoire de France et de l'histoire de la contestation. Ça, c'est un film qui s'appellera « Guérilla française ». Guérilla française, qui peut paraître être un oxymore, puisqu'on se dit « tiens, il n'y a pas eu de guérilla en France ». Ben si, il y a des gens qui ont mené des actions de guérilla urbaine dans les années 70 et 80 à Paris ou dans d'autres coins de France. Donc voilà un projet qui est en cours. Et puis j'ai également d'autres projets moins avancés, mais c'est ce film-là qui sera probablement mon prochain film qui sortira en salle de cinéma et j'espère passera à Genève, à Lausanne, en Suisse.
Y a-t-il des pressions de la part du pouvoir politique ou économique pour vous empêcher de mener ces films à bien ou de les montrer ?
Non, il n'y a pas de pression. Et simplement, c'est très difficile de trouver de l'argent pour faire ces films. La télévision ne les finance pas. Ou alors si elle les finance, elle veut en prendre le contrôle, ce que je ne souhaite pas, ce que moi et ma productrice ou les gens avec qui je travaille ne souhaitons pas. Donc il n'y a pas besoin de pression. Hein. Le simple fait que ça reste des films relativement confidentiels, finalement... le pouvoir les tolère. Il les tolère. Et même, il ne nous attaque pas. Les gens qui sont épinglés dans mes films ne nous attaquent pas en justice, alors qu'ils le pourraient, parce que ça ferait de la publicité à ces films. Et c'est ce qu'ils redoutent le plus. C'est que ces films-là leur fassent de la mauvaise publicité. Qu'on aille, que les spectateurs aient envie de les voir, soient plus nombreux à vouloir envie de les voir. Et qu'on voit à quel point ces gens-là sont nuisibles.
Vous dites confidentiel, mais les interventions dans votre film qui sont passées sur Internet, je pense à Mélenchon par exemple, sont largement connues en France.
Oui, des tout petits extraits du film ont fait l'objet d'une petite médiatisation par le biais d'Internet. Cet extrait, Mélenchon qui parle de Pujadas en termes assez, non pas élogieux, mais injurieux, en traitant de larbin, de laquais, de salaud. David Pujadas qui présente le 20h de TF1, qui était à l'ancienne TF1, qui présente le 20h de France 2, le service public. Et également une séquence où un député socialiste, Arnaud Montebourg, s'en prend de manière très virulente à TF1. Mais ce sont deux extraits très courts du film. Donc sur Internet, vous ne voyez que des toutes petites, c'est assez réducteur par rapport au film. Hein. Le film ne peut pas être réduit à ces deux extraits-là. Et parfois, on m'invite à la télévision, c'était déjà arrivé qu'on m'invite à la télévision en disant « Tiens, on voudrait passer un de vos extraits, un extrait de vos films. » Et moi, je dis « Non, non. D'abord, passez le film dans son intégralité. Et après, vous pourrez passer les extraits, si vous voulez. » Mais ça, non, ils n'en veulent pas. Ils veulent pas que mes films soient vus dans leur intégralité parce que je pense que c'est là qu'ils seraient susceptibles d'être subversifs.
Genève Active.ch